Elle est en studio, bien installée avec nous, la députée fédérale du Pontiac, Mme Sophie Châtel, qui est donc de passage, en fait, c'est dans un arrêt dans la circonscription cette semaine. On fait une petite tournée, il n'y a jamais de petite tournée dans la circonscription parce que c'est un très, très grand territoire. Mme Châtel, bonjour.
Bonjour, Félix-Antoine.
Comme je disais, vous êtes de passage. Rapidement, avant qu'on commence, expliquez-nous là, le but de votre visite dans la région.
Oh ben, aujourd'hui, j'ai rencontré Chantal Lamarche, on a discuté des dossiers prioritaires pour la circonscription et du rôle d'une députée fédérale et de son bureau pour aider les plus petites municipalités, les plus petites entreprises en ruralité, puis essayer vraiment de les aider au niveau des programmes fédéraux.
Vous avez une belle journée pour vous promener dans le comté. Ça a été... ça fait du bien.
Oh oui, on sent le printemps.
Oui, ça fait du bien. Hier, c'est un moment historique qui s'est produit du côté de la Chambre des communes, alors que Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, s'est adressé aux parlementaires. Je dis historique, c'est pas la première fois que quelqu'un qui est pas parlementaire s'adresse aux membres de la Chambre des communes. Mais c'est plutôt rare dans l'histoire, dans les 100 dernières années. Je pense qu'on peut le compter sur les doigts d'une main le nombre de fois que ça s'est produit. Comment dire? C'était vraiment pour sensibiliser les gens. Il a même mis des mises en situation durant lesquelles cette guerre-là pourrait se produire au Canada. D'entrée de jeu, comment vous avez perçu ce message-là?
Oui, bien, c'est sûr qu'on est dans un moment historique dans l'histoire. D'avoir cet homme-là, Volodymyr Zelensky, qui est en fait le héros dans cette guerre qui est menée contre nos démocraties, de l'avoir... s'adresser à nous comme parlementaires d'une manière qui était vraiment, vraiment touchante. Là, qui
nous humaine?
Oui, très humaine. Il nous a ramené dans des termes très concrets la réalité qu'il vivait et il nous a demandé d'imaginer si ça nous arrivait ici, chez nous, dans nos villes, si c'était nos enfants qui étaient bombardés, nos hôpitaux.
Ça vient changer la perception un peu, hein?
Absolument.
Qu'on a parce que c'est à des milliers de kilomètres de nous, mais là, quand on s'adresse puis qu'on l'a devant nous, ça rapproche un petit peu, là, ce drame humain.
Oui, c'est un drame humain, mais c'est une puissance, tu sais, je veux dire, c'est la Russie, là. Mm-hmm. La Russie qui a des liens avec toutes nos économies, nos démocraties. La Russie qui a déjà commencé une guerre de désinformation il y a des années en territoire aux États-Unis, puis même au Canada. Donc, on le voit que c'est une guerre contre nos démocraties. Mais ce qui m'a touché le plus, Félix-Antoine, c'est... Tu sais, on est là, on supporte l'Ukraine, on est solidaires, les pays de l'Occident. On est derrière avec les sanctions qui sont sans précédent. Mais en même temps, ils sont seuls à se battre. Et puis, c'est le sang des Ukrainiens là, qui se verse dans les rues de Kiev et d'autres villes. Et c'est la souffrance humaine qu'ils vivent qui était absolument... très, très, très émouvante hier.
Et c'est fragile, là, ce qui se passe en ce moment. Il faut faire vraiment attention. Chaque geste qu'on pose est calculé parce que l'effet que ça pourrait avoir, le contre-effet que ça... On ne voudrait pas déclencher une troisième guerre mondiale, là, mais on a, tu sais, j'ai entendu des spécialistes qui ont dit on n'a jamais été aussi près dans l'histoire moderne d'une troisième guerre mondiale en raison du contexte géopolitique actuel avec la guerre en Ukraine. On n'a pas... À part les mesures qu'on voit présentement, on a pas mal les pieds et mains liés. On peut pas intervenir du côté de l'Ukraine qui est pas membre de l'OTAN. Encore moins, j'entendais hier quand ils demandent l'exclusion aérienne au-dessus de leur territoire. Mais ça passerait par des frappes en Russie pour pouvoir anéantir certaines de leurs armes de guerre. Et là, si on attaque la Russie, ben on déclenche automatiquement quelque chose qui va être aussi sans précédent au cas d'une ampleur qu'on n'a pas vue depuis longtemps. C'est fragile. Là.
C'est extrêmement fragile et explosif comme situation. Il faut être très calculé dans tout ce qu'on fait. Il faut être unis aussi. Il faut faire plus. Puis on le fait. Chaque jour, on en fait de plus en plus. Il faut pas sous-estimer les sanctions économiques aussi là, parce que c'est sûr que ça prend un peu plus de temps et à agir puis avoir un effet sur le terrain en Russie. Mais chaque jour, les pays de l'OTAN annoncent de nouvelles sanctions économiques. Et ça, c'est sans précédent les sanctions. Il y a jamais eu de telles sanctions contre un pays. Ce qui est bon signe, c'est que la Chine reste neutre aussi. Mais on est quand même impuissant face aux images qu'on on voit chaque jour. On voudrait tellement faire plus. Puis il y a un sentiment d'échec aussi parce qu'on a vécu ça avec la Deuxième Guerre mondiale. On s'est dit plus jamais. Mm-hmm. Et on s'est donné des outils aux Nations unies. Mais là, on se retrouve en 2022 avec une situation, tu sais, quand on compare l'acte d'un dictateur qui est Poutine, on va pas avoir peur des mots, puis on regarde historiquement, ben il y en a eu des hommes comme ça, là. Et là, on en a un autre qui veut une guerre dont le peuple russe ne veut pas, que l'Ukraine...
Bon, personne ne veut.
Personne ne veut.
Même si ses proches conseillers ne semblent pas vraiment croire.
Exactement.
Ça semble être la vision d'un homme, là.
Exactement. Puis on est là encore en 2022. Il y a un caractère incroyable à tout ça. Donc, réflexion qu'il va falloir faire après que l'Ukraine sorte victorieuse de ça, parce que je ne vois pas une autre alternative pour nous, pour nos démocraties. Il faut que l'Ukraine soit victorieuse. Et ensuite, on va s'atteler à aider la reconstruction de l'Ukraine avec un plan Marshall pour l'Ukraine et aussi ensuite s'interroger sur qu'est-ce qu'on doit faire de plus pour plus que ça arrive.
Vous disiez tout à l'heure, c'est incomprenable que ça se produise en 2022 avec les outils qu'on a mis en place depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais j'ai quand même l'impression, puis c'est un petit peu l'espoir que j'ai aussi, ces outils-là, parce que les gens se parlent, les discussions sont plus ouvertes, même la Russie et l'Ukraine poursuivent certains pour parler, bon, c'est pas certain de l'issue de tout ça, mais les gens se parlent, les gens sont plus proches que jamais. C'est peut-être là l'espoir. Tu sais, il y a des, justement, à l'ONU, il y a des comités, pas des comités, mais des conseils qui sont formés avec les plus grandes puissances et ils ont la chance de se parler avec la Russie, avec, tu sais, ils sont là, ces pays-là. Ça, je pense que ça vient, ça change la donne.
C'est vrai. Aussi, on voit comment l'information véhicule auprès. Hier, le président Zelensky était avec nous au Parlement.
Exact.
Donc, on parle d'une communication très, très, très efficace. Hein. Et puis, la communication, ça va bien. Ce qui nous a unis vraiment en termes très concrets puis très rapides. L'OTAN, l'Occident ont été unis très, très vite. Mais l'information circule et je tiens à souligner le travail des journalistes aussi là qui font un travail extraordinaire pour nous donner de la communication fiable.
Au péril de leur vie.
Au péril de leur vie.
Parce qu'on en a vu des journalistes qui ont malheureusement perdu la vie. Il n'y a pas que des journalistes, il y a des enfants, des femmes, des hommes, des personnes âgées, mais également des journalistes. Est-ce qu'on accueille suffisamment d'Ukrainiens? Est-ce que ça se fait suffisamment rapidement? Je sais que j'ai vu certaines critiques émaner de part et d'autre pour dire, écoutez, laissons la bureaucratie de côté, faut les accueillir le plus rapidement possible. Est-ce que vous trouvez que ça va assez rapidement?
Oui, bien, notre ministre Sean Fraser a fait des annonces comme quoi il va vraiment, vraiment accélérer.
On pas le choix.
Non, pas le choix. Et il y a déjà plusieurs annonces qui ont été faites dans ce sens-là. Il y a toujours un minimum qui doit quand même être fait pour s'assurer que...
Pour notre sécurité.
Pour
aussi,
notre sécurité, exactement.
C'est ça. Sinon, dans les dernières semaines, on vous avait jasé, il y avait des craintes là, qui ont émané à la suite de rumeurs comme quoi que vous aviez l'intention de procéder à la fermeture de votre bureau de circonscription du côté de Gracefield. Vous nous avez rassuré que ça sera en place jusqu'au mois d'août, qu'on est à revoir peut-être la procédure, la manière de bien rejoindre les citoyens de la région à ce niveau-là. D'ailleurs, il y a une offre d'emploi qui est en poste, donc on cherche à combler ce manque-là. Il y a les maires de la région qui ont adopté une résolution également hier, j'imagine vous le savez, vous aviez une rencontre avec Mme Lamarre, je vous le disais, plutôt ce matin, j'imagine qu'elle vous en a parlé de cette résolution qui, eux, finalement, ont des craintes et ils veulent vraiment que le bureau demeure ici. Là.
Oui, bien, je suis rassurée dans le sens que les maires, mairesses de la région trouvent le bureau de la députée très important, donc pour moi, c'est une bonne nouvelle. Mais pour rassurer les gens, je cherche évidemment une personne pour couvrir les dossiers de circonscription de la vallée de la Gatineau et aider nos entreprises, organisations et municipalités à faire un appui dans leur recherche de programmes. Alors, si cette personne-là est dans un rayon de 30 km de Gracefield, le bureau va rester puis ça va être... Ça va être une bonne nouvelle. Donc, on est à la recherche. C'est sûr que si la personne est un plus au nord, ça va être à discuter avec cette personne-là comment on va gérer ses déplacements.
Donc, il n'est pas impossible que le bureau soit déplacé à Maniwaki, par exemple?
Bien, pour l'instant, c'est vraiment ma priorité, c'est de trouver la bonne personne. Mm-hmm. Puis ensuite, on évaluera. Okay. Mais pour l'instant, c'est dans un rayon de 30 km de Graceville. Je vois pas pourquoi je déplacerais. Puis la personne, c'est... va pouvoir se rendre au bureau plus facilement.
Oui, parce que si c'est plus que 30 km avec le prix de l'essence,
c'est ça.
C'est pas évident. D'ailleurs, je voulais vous entendre là-dessus parce que, bon, c'est quelque chose qu'on vit tous au quotidien. Vous faites la tournée de la circonscription, une tournée qui vous coûte en essence deux fois plus cher qu'elle ne vous l'aurait coûté il y a un an. Il y a une taxe sur le carbone qui est à être mise en place dans les jours qui suivent. Là, on dit le 1er avril, ce qui devrait augmenter encore davantage le coût de l'essence. Je sais qu'il y a des... Tu sais, on se projette dans l'avenir. Cette taxe pour le carbone, c'est pour aider à l'environnement, trouver des alternatives, faire une transition. Mais dans le concret, aujourd'hui, est-ce que les gens sont capables d'assumer cette autre hausse du coût de l'essence?
Oui, bien, il y a certains foyers qui ne seront pas. Et puis, c'est pas juste l'essence, mais c'est le prix de la nourriture aussi. Mm-hmm. Donc, je suis très inquiète de l'inflation qui croît. Selon nos économistes, ça va se stabiliser. Mais en attendant, il faut s'assurer que les familles à faible revenu puissent compenser pour les prix de l'inflation. Je suis pas sûre que les familles les plus aisées, par exemple, devraient bénéficier d'une diminution de la taxe sur l'essence. Je pense que ceux qui sont capables de la payer, faire un effort. Aussi, dans certains programmes avec des ententes avec la province, l'argent sur la taxe sur l'essence là, se retrouve dans les municipalités pour financer des infrastructures. Donc, on voudrait pas couper ça non plus. Mm-hmm.
Mais on a toujours l'intention de rentrer cette taxe-là le 1er avril.
Oui, c'est toujours l'intention du gouvernement, mais en même temps, il faut s'assurer qu'il n'y a pas des gens qui doivent faire le choix entre mettre de l'essence pour aller au travail ou faire une épicerie. Là. Mm-hmm. Et c'est ça le risque avec l'inflation. Donc, il faut s'assurer que les ménages puissent pouvoir combler là, ou s'ajuster à l'inflation.
Okay.
Et c'est ça là-dessus qu'on va s'attarder dans les prochains mois.
Oui, prochain jour, là, ça s'en vient. On dit 1er avril, là, c'est ma fête, moi, le 1er avril. Je sais pas si ça va être un beau cadeau, mais dans le futur, c'est pour l'environnement. C'est ça, faut que les gens qui s'attardent au quotidien, oui, ça va avoir un impact. Mais ce qu'on dit, c'est que c'est nécessaire, finalement. Là.
Oui, puis ça a un... Moi, l'inflation des prix de l'aliment, du blé et du pétrole, entre autres parce que la Russie, c'est un exportateur de blé et de pétrole. Alors, ça crée vraiment une inflation sur tous les produits qui utilisent le blé et le pétrole. Donc, pour pallier à ça, chez les ménages à faible revenu, il va falloir se soutiller pour en soutien à ces familles-là. Mais ceux qui peuvent absorber le coût, ils vont devoir l'absorber parce qu'effectivement, la taxe, c'est un 3% là, dont on parle.
OK. Ouais. Eh bien, Mme Sophie Châtel, merci d'avoir pris du temps pour passer en studio durant votre tournée de la circonscription. Aujourd'hui, c'est bien apprécié. Et bon, vous souhaite bonne chance pour la suite des choses.
Merci beaucoup, Félix-Antoine.
Merci.